Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi Politique. Notre invité cette semaine, Benoît Hamon, figure de l'aile gauche du PS, député, candidat au régional en Île-de-France, ex-ministre de l'Éducation nationale. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors au sommaire de cette émission, une chemise déchirée à la une des médias et un dialogue social en lambeaux à Air France, mais aussi l'avenir de la gauche, une gauche émiettée, dispersée, divisée, qui va au-devant d'une cinquième défaite pour le dernier scrutin du quinquennat, les régionales de décembre. Alors avec moi dans ce studio pour cette émission, Rachid Laïrech pour Libération, bonsoir.
Bonsoir.
Et Roselyne Fèvre pour France 24, bonsoir.
Bonsoir.
Alors on commence donc avec ce conflit à Air France, cette fameuse image choc du DRH torse nu après cette réunion où était annoncé le nouveau plan d'économie de l'entreprise. Vous, Benoît Hamon, 2900 licenciements ou une chemise déchirée, qu'est-ce qui vous semble le plus grave ?
Bah d'abord, le premier réflexe, c'est de condamner la violence. D'abord pour ce qu'elle est, parce qu'elle provoque des souffrances qui sont pas que physiques, mais aussi psychiques chez, évidemment, le DRH, probablement d'autres cadres d'Air France et des vigiles qui ont dû subir ces violences. C'est mon premier réflexe. Et je veux dire que, au-delà même de condamner la violence pour ce qu'elle est, je pense que elle dessert les intérêts des salariés. Et donc en soi, elle est doublement condamnable parce qu'elle fait souffrir des hommes et des femmes, mais en plus elle dessert les intérêts des salariés.
Alors,
mais une fois que j'ai dit cela, je veux dire que la responsabilité de la direction est quand même grande. Monsieur De Juniac, depuis qu'il est président d'Air France, a supprimé à peu près 10 300 postes. Il y a 10 300 personnes qui ont perdu leur travail. Ou en l'occurrence, peut-être pas 10 300 qui ont perdu leur travail, mais 10 300 postes ont été supprimés. Là, on propose de supprimer 2 900 postes supplémentaires. Et donc, assez légitimement, qu'on soit personnel au sol ou en volant, il y a des inquiétudes sur le fait de perdre son travail. Et quelque chose est parfaitement discutable dans le choix qui a été fait par Monsieur De Juniac, c'est d'opposer les uns aux autres et de dire si les pilotes n'acceptent pas telle ou telle concession, à ce moment-là, il y aura 2 900 postes supprimés. Je pense que cette stratégie-là était une mauvaise stratégie parce qu'elle a conduit à une forme d'impasse. Alors, est-ce que ça excuse la violence ? Non. Ça ne la légitime pas davantage, mais je veux dire que le choix aujourd'hui qui est celui de la direction d'Air France, moi je le conteste et c'est pour ça que s'il faut soutenir ceux qui ont été victimes de violence, je ne soutiens pas la direction d'Air France.
Sur cette question de la violence, Rachid Laïrech.
Oui, aujourd'hui Emmanuel Valls était chez Air France, il a parlé de voyous. Vous approuvez ce terme pour parler des syndicats qui ont agressé le DRH?
En tout cas, je pense que dès lors qu'il y a de la violence et qu'on se livre à des formes de... On voit bien en plus, quand il y a l'invasion d'un CCE, on se laisse emporter, etc. Tout ça est parfaitement inacceptable. Maintenant, Manuel Valls, qui aime bien Georges Clemenceau, si mes souvenirs sont bons, devrait se souvenir de ce dialogue entre Clemenceau et Jaurès, qui reste la figure emblématique de la gauche. Jaurès répondait à Clemenceau qu'à propos des violences ouvrières, que les violences ouvrières se voient, que la violence patronale, elle est sourde, qu'elle ne se voit pas, qu'elle broie, mais en silence. Et je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent dans leur travail des conditions qui leur sont faites. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui souffrent parce qu'ils ont peur de perdre leur travail. Et que cette violence-là, elle est bien réelle. Et que vis-à-vis de celle-là aussi, il faut entendre une parole du Premier ministre. En clair, pour être tout à fait limpide sur ce que je pense et que je veux dire, le Premier ministre a eu raison de condamner les violences. Il a eu raison de dire que c'était inacceptable. J'attends maintenant qu'il dise, aujourd'hui, vis-à-vis de la direction d'Air France, que 2900 postes supprimés après 10 300, c'est aussi une violence et derrière de la souffrance pour des femmes et des hommes. Je rappelle que dans ce laps de temps, Monsieur De Juniac, lui, s'est augmenté son salaire de 31 000 euros à 53 000 euros entre 2013 et 2014. Cette année-là, 2014, il y a eu 5 300 postes supprimés.
Benoît Hamon, sur ce sujet comme sur d'autres, vous trouvez qu'encore une fois...
Par mois, les 54 000 euros.
Vous trouvez qu'encore une fois, le gouvernement se préoccupe davantage des entreprises que des salariés ?
Écoutez, là, en l'occurrence, l'État est actionnaire au capital d'Air France. Donc, il est directement impliqué dans les choix qui sont faits. Moi, je dis simplement... que il m'est impossible d'être indifférent au sort de 2 900 personnes qui peut-être vont perdre leur travail. Je veux le dire comme tous ceux qui, confrontés à des plans sociaux, à des exigences de rentabilité supplémentaires, vont perdre leur travail. Moi, je constate comme parlementaire aujourd'hui un développement de la souffrance au travail, des maladies psychiques comme physiques liées au travail. Et pourtant, j'entends quand j'en parle, les responsables du MEDEF, des institutionnels, nier cette réalité-là. Pourtant, elle ne cesse de grandir. Les consultations pour burn-out ne cessent de grimper. On voit aujourd'hui qu'on peut souffrir et violemment, physiquement et psychiquement au travail. Eh bien, je pense que ces questions-là, c'est une forme de point aveugle de la parole gouvernementale. On l'entend pas assez sur ces questions et j'espère qu'on va pouvoir faire évoluer les choses.
Mais tout ça ne nous dit pas comment on va guérir Air France, comment on va sauver Air France. Vous parliez des pilotes tout à l'heure. Eux, ils réclament dans le fond de bloquer les frontières aériennes parce que la compagnie est menacée de disparaître entre les low cost, on va dire, et les compagnies du Golfe. Voilà, ils en réclament, ils en appellent à l'État, qui, vous le rappelez, est actionnaire à 17%. Donc, est-ce qu'ils ont raison ? Vous êtes attaqué, par exemple, vous avez mis de la concurrence chez les opticiens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que il faut chez les pilotes, il y a du corporatisme et qu'il faut la concurrence, elle est partout. Vous avez... prendre du low cost.
Oui, mais j'entends.
Je suis un raisonnement. C'est un raisonnement.
Oui,
vous
avez un raisonnement.
Compliqué.
Non, c'est extrêmement simple, mais parfaitement valable. Pourquoi pas ? Sauf que, en l'occurrence, pourquoi les opticiens ? C'est que vous payez en moyenne 300 euros.
Oui, mais là, avec le low cost, on paye.
Ce que je veux dire, c'est que vous les payez beaucoup plus cher que partout ailleurs pour le même service. Donc il était assez logique qu'on essaye de faire en sorte de mettre un peu plus de concurrence dans un secteur où, pour avoir accès à des lunettes qui peuvent vous faciliter la vie, il n'est pas illégitime qu'on paye moins cher que ce qu'on paye aujourd'hui en France, alors que partout ailleurs en Europe, on paye moins cher. Voilà ce qu'on a voulu faire. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France ? Effectivement, il y a une réalité. Sur des marchés sur lesquels auparavant Air France était dominant et conquérant, aujourd'hui il est durement concurrencé par qui ? Des compagnies du Golfe, à qui on a ouvert des créneaux.
À qui on vend des...
Mais qui on a ouvert des créneaux, voilà. Oui. En échange du fait, sans doute, qu'on leur vend quelques équipements. Peut-être
donc,
pas que des armes.
Encore une fois...
On a une responsabilité directe dans le fait que cette concurrence, c'est le fait d'autoriser
le
ces créneaux.
Bah
oui,
mais
donc, voilà. Donc on n'est pas sans responsabilité dans cette situation-là. On n'est pas sans responsabilité. Maintenant, que les pilotes de ligne doivent faire des efforts, à l'évidence, et c'est un élément de la discussion, et je pense qu'ils s'inscriront dans la discussion. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que prendre la responsabilité de faire du chantage en expliquant si les uns ne font pas cet effort, ce sera 2900 postes. Mmh. Ça n'est pas une bonne politique sociale, je le dis.
Non, mais vous dites que c'est des privilégiés ou pas, les pilotes ?
Mais non, mais attendez, c'est pas le problème d'être privilégié. Ils vous font voler. Non, mais il y a sans doute des salaires.
Voler plus,
non, mais attendez, de poser la question à monsieur De Juniac qui fait passer son salaire de 31 000 à 54 000 euros. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Pourquoi est-ce que vous ne lui posez pas, vous, la question comme celle-là ? Mais d'accord, mais.
C'est à vous que je
non,
parle.
Mais, oui, mais d'accord, mais aujourd'hui, remettons les choses à l'endroit. Ce que je dis, c'est que s'ils doivent faire des efforts, ça n'est pas un bon management. Ça n'est pas une bonne pratique du dialogue social que de jouer les catégories les unes contre les autres. Maintenant.
Vous ne nous donnez pas la solution.
Donc c'est à l'État de le faire.
Vous ne nous la donnez pas.
Vous êtes sympathique, madame Ferme, mais je ne suis pas président d'Air France. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que ce sont toujours les mêmes qui payent les pots cassés. Et en l'occurrence, ça ferait 13 000 suppressions de postes à Air France. Et Air France, toujours pas assez compétitif. Quand est-ce qu'on va devenir compétitif ? Quand il n'y aura plus personne ?
Justement, est-ce
je vous pose la question, est-ce que c'est efficace jusqu'ici ? Manifestement, non.
Mais aujourd'hui, il y a un fossé entre les syndicats et la direction, il y a l'État qui est au milieu de tout ça. Comment on fait pour y problème ? Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Comment on règle ce problème ? Donc il y a un problème et l'État.
Mais on rétablit d'abord le dialogue social. À l'évidence, il est coupé. Ce que je veux simplement dire, c'est que le dialogue social. J'ai entendu le président du groupe Air France dire qu'il voulait le relancer. Très bien. Qu'il change aussi sa méthode parce que manifestement, elle est en échec. Et donc, pour que tout le monde soit autour de la table, je pense que le rôle du gouvernement et le rôle de l'État est de prendre ses responsabilités. Et pour être plus simple, pour qu'il soit utile. Il doit être véritablement un médiateur, l'État. Et ne pas dire, nous soutenons la direction. Le gouvernement est légitime à dire, les violences sont inacceptables et nous soutenons les victimes des violences. je le trouve moins légitime à dire nous soutenons la direction. Parce que quand, si c'est pour dire aujourd'hui comme actionnaire qu'il soutient un plan social de 2900 postes supplémentaires, je le regrette parce que je ne pense pas aujourd'hui que ce soit la bonne solution. Donc le rôle du gouvernement est de faciliter le retour à la table de toutes celles et ceux aujourd'hui qui veulent une solution, ce qui ne veut pas dire, je le redis clairement, qu'il n'y a pas des efforts à consentir de la part des différentes catégories de salariés, mais en l'état, tout le monde va payer les pots cassés de cette situation de blocage.
Donc Emmanuel Macron, qui a reçu la direction d'Air France vendredi dernier, n'a pas fait le travail.
Non mais m'emmenez pas sur ce terrain-là parce que je le pense inutile. J'ai rien envie de dire là-dessus parce que Emmanuel Macron il a l'habitude de recevoir des directions de plusieurs entreprises, souvent sans doute que des représentants des salariés. Donc et il est dans son job ou dans l'idée qu'il se fait de son job.
Oui, vous ne diriez pas comme Martine Aubry, Macron ras-le-bol.
Non mais c'est pas le sujet. Franchement, j'en ai marre de ces petites histoires. C'est plus
franchement tout.
Non mais c'est pas ça. J'en ai marre de ces de voilà. J'ai pas envie. J'ai pas de compte à régler avec Emmanuel Macron. Il a une conception de l'action politique. Elle est respectable. Ça n'est pas la mienne. Et pour autant, j'ai pas envie voilà d'échanger des noms d'oiseaux. Ça ne fait absolument pas avancer le schmilblick. Ça ne résout aucun des problèmes qui lui sont posés à lui comme à moi.
Alors on va parler du fond si vous voulez bien puisque on ne peut pas évoquer les petites phrases. Il y a le débat en France qui est dans fond, Macron dit c'est l'emploi qui est la priorité et pas les salaires. Hein. C'est ce qu'ont fait les Anglais, c'est ce qu'a fait Tony Blair, le fameux workfare, ce qu'ont fait les Allemands. Est-ce que vous considérez qu'il a raison ? Est-ce que la priorité c'est l'emploi ou est-ce que c'est les salaires ?
Il a raison. Je trouve ça tellement.
Est-ce qu'il a raison quand il dit que la priorité c'est l'emploi?
C'est opposé l'un à l'autre. Pardon de le dire. Si je pense pas qu'il l'ait fait de manière aussi claire que ça, parce que c'est stupide. Il y a des entreprises aujourd'hui qui augmentent leurs salaires et créent de l'emploi. Non, c'est pas ça du tout. Il y a des entreprises qui augmentent les salaires et créent de l'emploi. Notamment dans la sidérurgie, on est capable de travailler moins de 35 heures, d'avoir une politique salariale ambitieuse, d'avoir des salariés productifs et, dans la sidérurgie, de pouvoir être rentable. Donc la preuve que tout ça est une opposition qui est une opposition purement en factice. Que défendent les libéraux? Les responsables du MEDEF, les libéraux sur le plan économique, Emmanuel Macron aussi. L'idée c'est quoi? C'est de considérer que aujourd'hui, sur le marché du travail, si les salariés étaient un peu moins protégés, ce serait plus facile pour ceux qui sont à l'extérieur du marché du travail d'y rentrer. En clair, si on pouvait licencier plus facilement ceux qui sont dans le marché du travail, qui avaient davantage de flexibilité sur le marché du travail, eh bien ceux qui sont à l'extérieur, les chômeurs, pourraient plus facilement rentrer sur le marché du travail. Donc, moi je ne crois pas à cela. Je ne crois pas que ce soit le sujet. Je pense le marché du travail déjà extrêmement flexible. L'essentiel des contrats aujourd'hui qui sont faits sont des contrats à durée déterminée. Des contrats qui, pour la plupart, sont de quelle durée, le savez-vous ? Moins d'un mois. On trouve que c'est pas assez flexible, le marché du travail ? Moins d'un mois. Donc, on a déjà un marché du travail très flexible. Alors, on peut sans doute améliorer certaines dispositions du Code du travail. Je vais vous dire, je suis favorable à une réforme du marché du travail. Je pense que le statu quo, vu la précarité qu'il crée, n'est plus tenable. Mais qu'est-ce que je propose ? Plutôt que de faciliter le licenciement.
Oui, c'est très méfiant, pourtant, même avec les garanties qu'a voulu donner François Hollande lors de sa conférence de presse de rentrée, en disant, on n'est pas là pour accentuer la précarité, au contraire.
Mais très bien, mais moi, je rejoins cet objectif-là. Je constate, je regarde. Alors, je vais vous proposer trois pistes que je mets en débat. La première, c'est que sur la sécurité sociale professionnelle, qui suppose que désormais vos droits soient attachés non plus au métier que vous occupez, mais à votre personne, et que vous disposiez toujours de droits entre deux métiers, eh bien que nous réalisions, au-delà du compte personnel d'activité, véritablement la sécurité sociale professionnelle par une étape clé, qui est la création d'une protection sociale universelle. Entre deux.
Ça, c'est l'objectif affiché.
Oui, mais ce sont des objectifs, mais j'en suis heureux. Maintenant, il faut que ça se réalise. Ce serait bien que, pour être très honnête, que tout ce qui représente une avancée sociale puisse se réaliser avant 2017, parce que si jamais on perdait, c'est une hypothèse, et qu'on laissait M. Sarkozy, Juppé ou d'autres, on leur laissait le soin de réaliser les avancées sociales qu'on avait imaginées, nous, j'ai comme un doute sur le fait qu'ils le fassent. Donc, je préfère que ça se réalise avant. Donc, la sécurité sociale professionnelle, point numéro un. Si je veux demain changer de métier, si je veux réorienter ma carrière professionnelle, si je veux prendre une année sabbatique pour créer une entreprise, bref, que je dispose de droits, que je sois protégé. Deuxième mesure que je propose et qui fera l'objet d'une proposition de loi à la rentrée, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle.
Oui, vous aviez déjà fait un premier pas dans la loi sur le dialogue social, vous avez du mal.
Et le gouvernement m'a répondu par un tout petit pas. Je remercie François Rebsamen du petit pas, mais donc il faut toujours tout prendre, donc je prends, mais on est très loin de la reconnaissance du burn-out. 3,2 millions de Français y seraient exposés. C'est quoi ? Un trop-plein de travail, un trop-plein de pression qui pèse sur des salariés qui, finalement, voient leur vie colonisée par le travail. Et les nouvelles technologies facilite beaucoup cela quand, à travers votre ordinateur, votre tablette, le soir vous répondez aux mails, vous êtes finalement tellement disponible que le travail a fini par coloniser votre vie. Eh bien, il y a des gens, nombreux, des Françaises et des Français, qu'ils soient cadres, qu'ils soient simples exécutants, du public, du privé, dans les hôpitaux, dans les entreprises qui se transforment, pas que dans les entreprises du CAC 40, dans les petites entreprises, qui s'effondrent, lâchent prise, souffrent. Eh bien, ces burn-out, aujourd'hui, ne sont pas reconnus comme une maladie professionnelle. Conséquence de quoi ? C'est plus difficile, aujourd'hui, à réparer, à guérir par absence de reconnaissance. Et surtout, les entreprises ne sont pas incitées à modifier leur organisation du travail pour éviter cela. Qu'est-ce qui changerait si on le reconnaissait, le burn-out, comme maladie professionnelle ? Eh bien, ça voudrait dire que les entreprises, la réparation serait prise en charge par la branche accident du travail. Qui cotise à la branche accident du travail ? Les entreprises. Eh bien, les entreprises fautives, pour ne pas avoir à payer la pénalité, qu'est-ce qu'elles seraient incitées à faire ? À modifier leur organisation du travail, à prévenir ces formes de management qui produisent du burn-out.
Alors ça, voilà une belle réforme. Alors ça, c'est ce qui vous a été refusé cet été au motif notamment que ça augmentait les charges de la sécurité sociale. Qu'est-ce qui vous
faux.
Fait penser ?
Non, faux.
Pas que ça, mais en tout cas...
Non, mais faux, j'ai dit d'un mot, parce que c'est juste un transfert. Aujourd'hui, vous faites une grosse dépression, admettons,
en tout cas, c'est pour ça liée
à votre travail. Elle est prise en charge par l'assurance maladie. Demain, elle sera prise en charge par la branche accident du travail. Donc c'est...
Qu'est-ce qui vous fait penser que ce qui n'avait pas fonctionné sur le burn-out, vous disiez vous avez eu un tout petit pas dans la loi sur le dialogue social, qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait fonctionner à la rentrée ? C'est quoi ? C'est parce que maintenant il est temps de donner des signaux de gauche ? Pourquoi ça fonctionnerait cette fois-ci ?
Écoutez, je vais en prendre, j'ai écrit aujourd'hui même d'ailleurs, au Premier ministre et au Président de la République pour leur parler de cette proposition de loi. Le premier secrétaire du Parti Socialiste avait dit vouloir défendre un texte que je lui ai soumis. J'ai écrit au président du groupe socialiste, la proposition de loi, elle est prête. Elle propose que, ça devient un peu technique, mais que, par ce qu'on appelle la voie complémentaire, il n'y ait plus aujourd'hui de seuil sous la forme d'un taux d'IPP de 25% pour pouvoir faire admettre votre burn-out comme une maladie professionnelle, qu'on supprime ce seuil, qu'il passe à 0%. Et pour faciliter donc la reconnaissance du burn-out, j'espère être entendu et que tout le groupe socialiste défende cette proposition. Proposition qui n'a aucun impact sur les comptes de la sécurité sociale, je le dis, aucun. C'est un transfert de la branche assurance maladie vers la branche accident du travail. Mais ce que je vais reconnaître tout de suite, c'est qu'effectivement, les entreprises où il y a beaucoup de burn-out, elles paieront plus. J'espère qu'elles seront encouragées à prévenir plutôt que guérir.
Question rapide et réponse rapide, Rachid Lahirèche.
Mais rapide, vous avez plein de propositions, vous débattez, vous bougez. Aujourd'hui, qui vous écoute ? Vous avez l'étiquette du frondeur au Parti Socialiste, il y a la fronde. Est-ce que vous avez encore un poids au sein du gouvernement, au sein du groupe socialiste, est-ce que vous avez encore une marge pour discuter, pour proposer, pour avancer ? Je sais pas, j'arrive pas trop à voir un peu l'horizon des...
Je pense qu'il faut être très modeste, effectivement, quand on est un parlementaire dans la majorité, mais qui n'est pas tout à fait d'accord avec les orientations économiques et sociales du gouvernement. J'en ai eu un au moment où j'ai poussé à la reconnaissance de la Palestine par l'Assemblée nationale. Personne n'y croyait. Nous avons défendu une résolution, elle a été reprise par le groupe socialiste et l'Assemblée nationale.
Avec l'accord, vous avez obtenu en amont l'accord élyséen. Il n'était très favorable à François Hollande, effectivement.
Personne n'imaginait que ce soit possible. Ça l'a été, je m'en réjouis. Aujourd'hui, le Parlement a invité le gouvernement à reconnaître l'État de Palestine et on a fait un grand progrès. Donc la preuve qu'on peut faire bouger les lignes. Est-ce qu'on peut le faire sur les questions économiques et sociales ? Et en l'occurrence, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on vous oppose souvent... Ce qui, moi, m'a tendance à me surprendre, tant finalement c'est devenu un leitmotiv, c'est on vous dit, mais attention à ne pas affecter la compétitivité des entreprises. Vous savez, le fait de faire reconnaître le burn-out, ça ne toucherait que les entreprises où il y a des burn-out. Pour toutes les autres, ça n'aurait aucune incidence. Et qui peut penser qu'aujourd'hui, un salarié qui est un salarié sous pression est un salarié véritablement productif ? Qui peut croire qu'une organisation du travail qui met sous pression va faire de ses salariés des salariés véritablement productifs. Quand on en tire l'essentiel de la sève et qu'on les jette, mais ça ne marche pas. Là où les salariés sont heureux au travail, l'entreprise est plus rentable, plus compétitive, plus productive. Donc moi, je crois beaucoup à cela. J'espère que ce raisonnement parviendra à convaincre mes anciens collègues.
Nous approchons de la coupure. On va devoir se retrouver pour la deuxième partie de Mardi Politique. Ça sera juste après les informations.
Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24.
Anissa El Jabri.
Mardi Politique, deuxième partie avec Benoît Hamon, député socialiste, candidat au régional en Ile-de-France, ex-ministre de l'Éducation nationale, Rachida Yerech, Libération, Roselyne Fèvre, France 24. Alors, dans cette deuxième partie, on va parler pour commencer de l'affiche de demain, Angela Merkel et François Hollande devant le Parlement européen. Dernière fois que deux dirigeants français et allemands s'étaient exprimés ensemble, c'était quand même en 89, François Mitterrand et Helmut Kohl. Alors, cette fois-ci, la chancelière et le président veulent mettre l'accent sur l'Europe, communauté de valeurs, de solidarité, qui doit partager les devoirs. Parlant de solidarité et de devoirs, l'attitude de François Hollande a été pas mal critiquée par une partie de la gauche qui est jugée à la remorque d'Angela Merkel sur la crise des migrants et l'accueil. Et aujourd'hui, cette même Angela Merkel, elle est en difficulté en Allemagne puisque même le chancelier, le vice-chancelier Sigmar Gabriel, SPD, social-démocrate, a déclaré « Nous devons réduire sensiblement le nombre de réfugiés ». Alors Benoît, au moins, est-ce qu'au fond, finalement, le président français n'a pas eu raison d'être prudent sur cette question?
Bon, ça mériterait de me parler longtemps, hein, donc vous allez me couper si je fais un raisonnement trop long, ça m'embête.
Pas.
Oui, mais bon, d'abord Sigmar Gabriel, c'est un de ceux, je crois, qui a parlé, le premier à avoir parlé de 800 000, et maintenant il dit qu'il faut en faire moins.
Parce que le chiffre qui circule, révélé par Bild, c'est 1,5 million de réfugiés.
Non mais d'accord, mais qui a dit que l'Allemagne était en capacité, pouvait accueillir 800 000 personnes. Alors, il faut savoir que, qu'on soit au Liban, en Turquie, en Jordanie, on est connecté. Quand il y a un message comme celui-là, c'est non pas une invitation, mais en tout cas, c'est pour beaucoup, voilà, une porte qui s'ouvrait, et beaucoup ont voulu s'engouffrer dans cette porte. Qui va le leur reprocher, eux qui fuient la guerre et la pauvreté là où ils se sont réfugiés. Cela étant, je reviens moi d'une mission au Liban où j'ai eu, où j'ai découvert ces encarts publicitaires dans la presse arabophone du Danemark ou de la Hongrie, invitant les réfugiés à ne pas venir. Et là, on se dit, le projet européen, les valeurs dont tout le monde parle, on en est très très loin dans ces encarts publicitaires qu'on achète dans la presse arabophone pour dire surtout ne venez pas chez nous, restez là où vous êtes. Est-ce que je peux vous donner un chiffre? On consacre par mois et par personne, en termes d'alimentaire, de la part des Nations Unies du HCR, 13 dollars que l'on donne aux personnes réfugiées, 13 dollars par mois, sur un maximum de 67 dollars par famille. Le HCR et les Nations Unies nous disent ne pouvoir satisfaire qu'à peu près 40 à 50% des besoins. Donc on est très loin même de ces 13 dollars. Que par exemple, le 1 200 000 de réfugiés syriens au Liban louent les places dans lesquelles ils sont, parce que ce sont des camps privés où ils habitent dans des villages. Donc ils payent l'électricité. Bref, en clair, ils sont dans le plus grand dénuement. La priorité des priorités pour l'Europe, c'est de faire en sorte que ces hommes et ces femmes qui n'aspirent qu'à une chose, c'est une fois la guerre terminée, revenir chez eux, et je le dis pour avoir vu les témoignages, rencontré les acteurs du HCR, qu'ils aient les moyens de vivre. Parce que s'ils n'ont pas les moyens de vivre, outre que ça déstabilisera les pays dans lesquels ils sont, eh bien, ils continueront à vouloir migrer. Donc cette question-là, elle est centrale. Et pourquoi je m'en inquiète? J'ai interrogé le ministre de l'Intérieur qui était auditionné, Bernard Cazeneuve, par la Commission des Affaires étrangères la semaine dernière. Je m'en inquiète parce que s'il y a des engagements de l'Europe, j'observe aussi que dans le projet de budget qui nous est proposé, l'aide à la coopération et au développement de la France est en baisse. Et baisser l'aide à la coopération et au développement, c'est fondamentalement précariser.
Donc en clair, on peut en accueillir combien? On parlait de chiffres. Puisque, mais, bah oui, mais
c'est pas...
la France va en accueillir 30 000.
Non, mais en deux ans, elle va en accueillir 30 000 en plus de toutes les demandes d'asile qui existent, qui sont aujourd'hui autour de 64 000 par an. Elles ne sont pas en augmentation. Nous constatons qu'on a eu les mêmes chiffres en 2014 qu'en 2013, et en 2015, on est à peu près sur les mêmes niveaux et les mêmes tendances. Donc on va en accueillir, en tout cas, potentiellement 30 000 en
plus. C'est un chiffre raisonnable.
Oui, mais je vais même vous dire, savez-vous que ceux qui sont venus chez nous et que nous avons accueillis parmi les premiers, pour beaucoup d'entre eux sont repartis à peine arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ça n'est pas chez nous qu'ils pourront vivre, qu'ils veulent vivre. Et c'est pas chez nous qu'ils veulent faire le projet de vie. Je vous le dis parce que pour tous les lieux d'hébergement...
Vous savez pourquoi?
Parce qu'ils préfèrent aller en Allemagne, parce qu'ils préfèrent aller en Angleterre, parce qu'il y a aussi, honnêtement, mais au-delà même de cette question du boulot, il y a un message. Ça fait quand même maintenant des mois que la classe politique française, sur toutes les ondes, sur vos antennes, sur vos médias, comme partout, explique qu'on ne veut pas de réfugiés. Oui. Donc l'image de la France comme de l'Europe, elle est profondément altérée par tout ça.
Mais Benoît, alors,
il y en a qui vont, en entendant se réjouir, en disant oui, on a raison de ne pas les vouloir, parce qu'on ne pourrait pas supporter l'accueil de ces femmes et ces
justement,
hommes.
Justement, Benoît Hamon, la gauche, on vous a pas entendu faire la pédagogie de la cause immigrant. Angela Merkel, son opinion se retourne et elle continue à maintenir qu'il faut quand même accueillir des réfugiés.
Me dites pas ça à moi.
On a
moi,
eu un meeting très tard après la photo du petit Hélène. On n'a pas beaucoup entendu.
Écoutez, vous pouvez. Peut-être. Alors, prenons. Si vous ne l'avez pas entendu et que vous le dites, c'est sans doute que vous. C'est sans doute en partie vrai. Mais après, faites un petit peu le tri entre ceux qui ont parlé et ceux qui peut-être ont moins parlé. Soit. Mais je prends ma part de responsabilité. Je vais juste vous dire de cet exemple. Dans la ville dont je suis conseiller municipal, Trappes, qui est probablement une des villes les plus pauvres de l'Île-de-France, on a voté nous une délibération pour mettre à disposition les quelques appartements qui restaient, qui appartenaient à la ville, pour des familles de réfugiés.
Et comment ils ont réagi la population de Trappes?
Positivement. Mais on a eu des demandes spontanées, des offres spontanées. Ce sont des villes qui sont pauvres, mais ont des traditions d'accueil. Et à côté, on constate quoi? Que Madame Pécresse, elle, qui prétend d'ailleurs incarner la région Île-de-France, elle ne veut pas de réfugiés ou soutient la parole de ceux qui n'acceptent les réfugiés qu'à condition qu'ils aient la bonne religion. Je vous dis tout ça, moi.
On peut pas le dire, c'est vrai.
Moi, je voudrais rebondir sur ce que vous parlez beaucoup,
donc on peut poser quelques questions. Anissa a posé une question importante sur la voix de la gauche. Rappelez-vous, vous étiez peut-être un peu jeune, mais dans les années 70, les Boat People, il y avait quand même des voix qui étaient entendues. Il y avait Aron, il y avait Sartre. Aujourd'hui, quelle est la voix de la gauche qui s'élève?
Intellectuel
pour plaider la cause des migrants.
Expliquez-nous. Aujourd'hui, les intellectuels, ils étaient au cas. Les intellectuels médiatiques, ils ont plutôt choisi le camp de la réaction et ils ont embrayé le pas à Nicolas Sarkozy quand il avait fait la question de l'identité de la France, la question numéro un. Et ils ont une grande responsabilité dans l'état du pays aujourd'hui.
Et si on parle de commandement et du PS, à votre avis, est-ce qu'il a réagi rapidement? Est-ce qu'il a bien agi?
Il a réagi de manière positive. Il a organisé un meeting.
La photo du petit Thaïlande, il y a quelques semaines, se retrouve à la une de la presse internationale.
Alors, peut-être était-ce trop tard. Peut-être. Et vous avez peut-être raison là-dessus. Je suis pas là pour faire une défense, arc-boutée de ce qu'était la position du Parti Socialiste. Mais en même temps, je trouve que à ce moment-là, il a remis les choses à l'endroit. Et qu'on s'est à nouveau trouvé à l'aise, pour ceux qui n'y étaient plus tout à fait à l'aise, dans la parole du Parti Socialiste sur la question des migrants. Je trouve que il a bien fait de le faire en tout cas.
Est-ce que, parlons des régionales, cinquième scrutin, dernier scrutin intermédiaire du quinquennat qui s'annonce à nouveau catastrophique pour la gauche, est-ce que pour ces échéances qui s'annoncent, vous vous dites à nouveau, comme vous l'avez dit pour les précédents scrutins, si les électeurs ne viennent pas vers nous, c'est parce que la gauche n'est pas assez à gauche?
Bon, moi je pense que être plus à gauche, je pense que ça convainc personne. Si je leur disais, si on faisait une politique plus à gauche, on aurait des résultats, je pense qu'assez naturellement, la question des clivages droite-gauche, dans la tête de beaucoup de gens, elle s'est beaucoup atténuée. Moi, j'en veux pour preuve que, à partir du moment où, sur la remise en cause des 35 heures, la facilité du licenciement, ou le plafonnement des indemnités au prud'homme pour les personnes licenciées, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, Alain Juppé et quelques autres, disent à peu près la même chose au dosage près, où est la gauche, où est la droite, on ne sait plus très bien. Donc, cette indifférenciation, elle pousse au désenchantement. Ça nous invite à quoi? À faire quoi dans une élection régionale? Plutôt que de pronostiquer la défaite à venir, c'est d'abord de se battre pour éviter de la vivre, la défaite. Parce que ça a quand même un petit impact sur la vie des gens, à mon sens. Et sans être... Et moi, mon discours, il n'est pas de dire « Moi, je vous promets, je suis plus à gauche que le voisin. » Je vais vous prendre un exemple. Sur les transports collectifs en Île-de-France, une des propositions qui pourrait être celle de Claude Barthelone est de travailler à ce que demain, on tende vers des transports collectifs 24 heures sur 24. Pourquoi? 25% des familles en Île-de-France sont des familles monoparentales. Et pour l'immense majorité d'entre elles, presque 9 sur 10 de celles-ci, ce sont des mamans seules. Elles ont besoin de quoi? Elles ont besoin d'avoir des transports collectifs assez tôt le matin, voire même très très tôt quand elles travaillent avec des horaires décalés. Elles ont besoin d'avoir une solution de garde d'enfants très très tôt. Et bien sur ces questions-là, qui sont pas forcément des compétences obligatoires de la région, mais il me semble qu'il faut apporter des réponses. Claude Barthelone fera des propositions en ce sens. Et bien là, on est en capacité de lever, on va dire, tous ces embarras, tous ces poisons qui minent la vie de franciliens qui ont des revenus modestes. Voilà comment moi j'ai envie de parler politique. Je pense que c'est de gauche. Est-ce que le fait que je précède cela par le fait de dire « Moi, vous voyez, c'est de gauche », c'est important? Non. Je pense qu'il faut juste dire « On tend vers le transport 24-24, on veut des crèches à horaires décalés, on veut aujourd'hui être en capacité d'avoir une offre de transport à tarif réduit pour la majorité des franciliens. » Voilà des choses qui nous permettent de faire de la politique.
Arrêter le discours politique, quoi, et parler aux gens.
Oui, en tout cas, arrêtez de dire « Votez pour moi, parce que moi, comme je suis plus à gauche que le voisin, ça va changer. » Je pense qu'il n'y a plus personne qui croit en ça.
Voilà. Oui, et puis c'est aussi le réflexe
même
classique,
si moi, je pense que...
mais d'une majorité en difficulté, c'est de se dire qu'on va régionaliser la campagne.
Vous pouvez le voir comme ça, mais je pense qu'on a intérêt à le faire, effectivement.
Les régionales, c'est aussi le risque d'un Front National qui est toujours aussi fort hein, et qui risque peut-être de prendre une région, en l'occurrence deux, oui, peut-être, en tout cas, Nord-Pas-de-Calais. Est-ce que les politiques n'ont pas une responsabilité dans le sens où la gauche a toujours délégitimé la droite a délégitimé la gauche. Vous êtes attaqués les uns les autres. Alors Sarkozy disait que ce que faisait Hollande était nul, Hollande disait que quand vous étiez dans l'opposition, que ce que faisait Sarkozy était nul. Est-ce que dans le fond, si tout le monde est nul, tout le monde eh bien se dit bah on va peut-être essayer le Front National comme ça.
Dire que son voisin est nul pour s'apprêter à faire au dosage près la même chose que lui sur les questions économiques, c'est effectivement ça participe du désenchantement.
Est-ce que la délégitimation de chaque camp n'a pas fait
pour être très clair, je pense que le Premier ministre avait une parole très forte au moment de sa déclaration au discours d'investiture lorsqu'il avait demandé la confiance des Français. Le premier discours, il avait dit le discours politique est une langue morte. Et il disait quoi? C'est que quand le verbe est haut et que l'action est faible, en clair, quand je mets beaucoup d'énergie, de virulence, à dire je veux ça et à dénoncer l'autre, et qu'au bout du compte on fait à peu près la même chose que l'autre, c'est-à-dire que la différence, alors elle est importante, nous on fait 50 milliards de réduction de la dépense publique, Nicolas Sarkozy va en faire 100 milliards, d'ailleurs qui nous explique comment il réduirait pas les dotations aux collectivités, c'est strictement impossible.
Vous avez déjà, la gauche a elle-même commencé à réduire.
Mais si vous doublez la mise, vous êtes obligé d'en faire deux fois plus, vous êtes d'accord avec moi. Donc, mais quand au bout du compte, sur les questions sociales, on dit oui, il faut sans doute remettre en cause les 35 heures, oui, il faut sans doute plafonner les indemnités de licenciement pour licenciement abusif. Oui, il faut sans doute faciliter
les
licenciements.
Ben
quand on dit la même chose, oui, et qu'on met de la virulence à dire que le voisin a tort, plus personne n'y comprend rien. Donc, cette indifférenciation a-t-elle nourri le Front National? Oui. À l'évidence. Les politiques ont-ils une responsabilité? Oui, à l'évidence. Et est-ce qu'on regarde tout ça maintenant?
C'est un sacré aveu, quand même.
Ouais, alors là, si je dis pas oui, si je dis non, comment est-ce que je suis juste pas crédible, non? Vous croyez pas?
Mais Rachid Ayrach.
Par rapport au FN, une question divise la gauche par rapport au Front Républicain. Si au sort du premier tour, le FN est premier, le deuxième c'est LR et le troisième la gauche. Comment on va réagir? Se retirer, aller au second tour?
Alors moi, je vais vous dire, il faudra regarder le total gauche. Et moi, je pense que
ce calcul peut être dangereux.
Ah oui, mais moi, je pense que oui, j'entends bien. Mais si on pense que le salut du pays passe par la disparition de la gauche des exécutifs, des conseils régionaux. C'est-à-dire que on se désiste pour les Républicains, c'est-à-dire les mêmes qui ne veulent pas de réfugiés, font à peu près la même campagne que Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen.
Vous parlez de la région PACA, mais le Nord-Pas-de-Calais, par exemple.
Non mais bon, moi j'ai pas vu Xavier Bertrand être d'un très grand progressisme sur ces questions-là. Je vois pas Monsieur Darmanin être incarné l'aile. Donc ce que je vous dis, c'est que je pense que la gauche devra se rassembler pour viser la victoire au second tour, et que si elle se rassemble, elle peut battre Madame Le Pen et les deux dames Le Pen. Dans le Nord-Pas-de-Calais, comme dans la question se posera aux Républicains, parce que le total gauche sera supérieur aux Républicains et qu'ils n'auront aucune réserve de voix.
Faut se maintenir.
Ah oui, moi je pense qu'il faut se maintenir. Qu'on m'explique que le salut du pays passe par le fait de choisir entre Monsieur Estrosi et Madame Marion Maréchal Le Pen, et qu'ils nous aurions une consigne de vote, pourquoi pas un tract aussi? Moi je ne vote qu'une chose. Je vais vous dire, si j'étais électeur dans le Nord-Pas-de-Calais ou en PACA, je vote Pierre de Saint-Ignon au premier et au second tour, je vote Christophe Castaner au premier et au second tour. Voilà.
Chez certains à gauche se développe une théorie en ce moment qui est de dire, après tout, si le Front National malheureusement emporte deux régions, et ben ceux-là disent, et bien au moins l'adversaire sera clairement désigné pour 2017. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Écoutez, ça s'appelle la politique de la terre brûlée. On peut choisir le scénario le pire et se dire que quand ce sera vraiment terrible, les gens se réveilleront et soudain verront en nous les sauveurs potentiels de la République.
Un peu comme les frondeurs, avec François Hollande.
Moi, ouais, non, c'est pas là.
Pour l'après 2017.
Non. Moi, je veux pas de ça, ce scénario-là. J'ai dit, et on m'a reproché d'ailleurs sur cette antenne à RFI, que la République, elle était fragilisée quand on avait des politiques qui, quand il y avait moins d'État. Je me suis senti très conforté quand le Premier ministre avait dit qu'il y avait de l'apartheid dans la République. Parce que je m'étais dit, je suis pas d'accord avec la formule, mais c'est que ça, la situation devait être grave. Bon, ben voilà, si on parle des mots et des actes, les mots étaient forts, l'apartheid. Il y a un budget qui vient là. Le budget sera forcément un budget anti-apartheid et ça devrait se voir.
Bon.
J'espère.
Mardi politique.
Dernière séquence, questions courtes, réponses courtes. Arnaud Montebourg est passé dans le privé. Il est aujourd'hui vice-président de la société d'ameublement Habitat. Si vous vous arrêtiez la politique, vous imaginez où?
Ah, je pense. Je pense dans l'entrepreneuriat social. Mon passage au ministère à Bercy a été un moment important. Et je pense que je poursuivrai dans l'entrepreneuriat social et peut-être en lien avec l'enseignement et l'éducation, au sens où je pense qu'une grande école de l'entrepreneuriat social, ça pourrait être quelque chose de bien.
Et vous avez toujours votre boîte de conseil en politique?
Ah non, moi j'ai plus, non. Ah non, c'est fini ça. Mais depuis, je l'ai plus depuis que je suis revenu en politique.
Le plus gros défaut de François Hollande.
Elle existe encore, hein. Mais moi je n'y suis plus.
Le plus gros défaut de François Hollande.
Le plus gros défaut de François Hollande,
c'est du. Pourquoi dur, il ça. En a plusieurs?
Non, bah, si, vous en a toujours plus plusieurs. Je pense qu'il. Je vais essayer de le tourner positivement, je pense. Faut pas qu'il oublie qui l'a élu et l'espoir que les gens ont placé en lui. Je pense pas qu'il l'ait oublié, mais je pense que le pouvoir éloigne de cela. Et je l'invite à se souvenir des mots, des regards de ceux qui lui disaient, notamment dans les quartiers, notamment les gens issus des milieux populaires, qu'ils habitent dans les quartiers ou pas, en milieu rural, mais qu'ils attendaient. Voilà, que la gauche gouverne pour eux, voilà, pour eux, pas tout le temps, mais pour eux un petit peu. Là aujourd'hui, pardon de le dire, mais Macron et les milliardaires, voilà, c'est pas ça passe pas.
Rachid Ayrech.
Rugby, la France question en quart de finale. Quel adversaire idéal?
Vous qui êtes fan.
Ou Nouvelle-Zélande.
Ah, moi, j'ai très peur des Argentins. D'abord parce qu'ils nous causent beaucoup, beaucoup de soucis. Et en même temps, si on fait un énorme match contre les Blacks, derrière en demi, on sera tellement cramé que. Donc, je vais dire les Argentins. Malgré le fait que je les redoute. Voilà. Pour garder le beau morceau et le gros pour la finale, c'était la belle finale France-Nouvelle-Zélande où on tape les Néo-Zélandais à Twickenham.
Si vous deviez revenir à un ministère, vous reprendriez le ministère de l'Éducation histoire de faire une rentrée cette fois, puisque vous avez été un ministre assez éphémère, vous avez raté la rentrée.
Ouais. Ce qui est bien, c'est que vous vous répétez pas.
Bah non, je vous demande quel ministère si vous deviez rentrer au gouvernement aujourd'hui.
Poursuivre à l'Éducation nationale. Mais dans un gouvernement qui, sur les questions économiques et sociales, poursuivait une politique qui est une politique de lutte contre les inégalités. J'ai jugé que les choix qui étaient faits sur les questions économiques et sociales allaient produire plus d'inégalités que le contraire. Et voilà, c'est pour ça que j'en suis plus. Mais j'aurais adoré poursuivre malgré tout à l'Éducation nationale. Cela étant dit...
On a dit réponse très courte, une dernière toute petite question de Rachid Ayrech.
Vous quittez le gouvernement.
Hein?
À qui vous passez votre premier coup de fil?
Quand vous êtes sorti?
Parce que lorsque vous sortiez du gouvernement.
Quand vous étiez.
Je pensais à ma femme.
Pour lui dire quoi?
En théorie, on va retrouver du temps. En fait, pas du tout.
Est-ce que Montebourg vous a dit, ah, tu vois, je te l'avais dit que je révirais.
Non. Ça s'est passé de manière, beaucoup plus paisible. Ben, si vous lisez les discours, vous verrez que j'ai donné beaucoup plus. C'est marrant, on vit dans un monde où on n'écoute pas ce que les gens disent. Ben, ce jour-là, Frangy, j'en ai dit beaucoup plus que lui. On a retenu la cuvée du redressement.
On en reparlera une autre fois parce que c'est la fin de Mardi Politique. Merci à vous. Mardi Politique, réalisation Mathias Golchani, programmation Audrey et Yatoni. Rendez-vous la semaine prochaine.